Suivez Priorité Santé avec Sunou Assurance. Notre métier, l'assurance, et Sunou Bank avec vous à chaque étape.
Priorité Santé, pour nous les femmes.
Notre santé d'abord.
C'est notre priorité. Oui à la santé, non au tabou.
Priorité Santé, question de femmes.
Charlie Dupiot.
Bonjour à toutes et à tous. Tension, rancœur ou silence pesant, la communication en famille n'est pas simple. Comment éviter d'en arriver à des situations explosives? C'est le sujet de notre émission Questions de femmes aujourd'hui. Pourquoi faut-il, avec ses enfants, ses parents, ses frères et sœurs, se forcer parfois à mettre des mots sur ce que l'on ressent, dire « je t'aime » à nos proches, demander pardon si jamais l'un d'entre eux a été vexé par nos paroles ou nos actes? Alors, pour bien communiquer, il faut prendre le temps de se retrouver en famille, à table par exemple, ou de donner des nouvelles à distance si on ne vit pas dans la même ville. Nous allons discuter de tout ça avec notre invité. Bonjour Isman Soukaina Diop.
Bonjour madame.
Vous êtes docteur en psychologie clinique et maîtresse de conférences au département de psychologie de l'université Cheikh Anta Diop à Dakar, au Sénégal. Vous vous trouvez en ce moment dans les studios de RFI Dakar, dont on remercie toute l'équipe pour son accueil. Et c'est vous qui allez répondre aux auditrices, qui allez les conseiller, hein, elles pour qui le dialogue peut être difficile et parfois même rompu, avec un parent, un frère, une sœur. Et certaines s'interrogent sur les relations qu'elles sont en train de créer avec leurs propres enfants. Voilà pour le programme du jour. Bienvenue.
Notre santé, si on en parlait.
Isman Soukaina Diop, les liens au sein de sa famille nécessitent qu'on en prenne soin, comme dans un couple?
Oui, tout à fait. C'est une des questions les plus récurrentes pour les demandes de suivi ou les demandes d'aide, de soutien en psychothérapie, les troubles de la communication au sein de la famille.
Et justement, qu'est-ce qui peut aller mal dans cette communication?
Eh bien, souvent, on parle de rancœur, de choses du passé qu'on n'a jamais pu discuter, ces questions de pardon non dit, de sentiment d'injustice ou de différence entre les membres de la famille qui peuvent causer des souffrances importantes dans la vie des gens.
Et dans une famille, on imagine que chacun peut aussi se sentir enfermé dans un rôle, avec par exemple l'aîné qui va organiser, le père qui va rester sur la réserve, la mère qui peut se sentir elle obligée de maintenir un lien avec le reste de la famille. Est-ce qu'il faut à un moment mettre des mots sur ces différents rôles?
Ce sont des choses qui parfois se mettent en place sans vraiment qu'on ait réellement consciemment l'idée ou l'attitude de les mettre en place. Donc parfois en parler voudrait dire en avoir conscience. On n'en a pas forcément conscience. Et ce sont des choses qui s'enracinent sur le long terme et qui parfois se reportent d'une génération sur l'autre. Donc la question d'en parler est toujours nécessairement quelque chose qui arrive de la part d'un membre de la famille et pas de tout le monde, et qui parfois indexe ce membre de la famille comme étant différent des autres. Ça n'amène pas forcément à la conversation.
Et pour éviter d'en arriver à des discordes, des disputes, est-ce qu'il faut nécessairement instaurer des moments de discussion au sein de la famille?
Je pense que selon le contexte géographique, culturel, historique, ce n'est pas la question des moments, mais plutôt de l'ouverture de la parole. Je pense que beaucoup de familles ont des moments où ils parlent, mais la manière dont la parole est distribuée au sein du groupe fait que ça n'invite pas tout le monde de la même manière, avec la même capacité à s'exprimer. Et le problème est plus souvent orienté dans ce sens-là. Par exemple, si dans une famille, on a tendance à se réunir tous les jours, manger ensemble autour d'un moment particulier qui est peut-être le midi ou alors le soir, eh bien, ça peut être le moment où tout le monde écoute les personnes adultes de la famille parler. Et c'est un moment qu'on partage, c'est un moment pendant lequel on communique, mais tous les membres de la famille n'ont pas la même voix dans ce discours, dans ce dialogue. Et donc, il ne s'agit pas réellement d'un moment de partage, mais ça reste un moment d'écoute, mais pas nécessairement d'écoute de tout le monde. Parce que certains membres du groupe affirment leur manque d'écoute, leur sensation de ne pas être écoutés. Et ça, ça doit passer nécessairement par une crise où ils doivent affirmer leur problème, le fait qu'ils n'arrivent pas à se faire écouter. Et les autres doivent en prendre conscience. Parfois, ça peut passer par un conflit. Et ensuite, si jamais les choses se passent bien, cette situation peut finalement développer ou donner l'occasion à une véritable conversation qui peut promouvoir l'écoute.
Et parfois, hein, vous le dites, une crise peut s'avérer nécessaire.
Une crise dans le fonctionnement d'une communication de groupe, oui, peut s'avérer nécessaire. Il faut que les uns et les autres puissent se plaindre d'une situation qui dysfonctionne.
Alors, nous donnons la parole aux femmes aujourd'hui dans cette émission. Quel rôle jouent les femmes dans cette communication en famille le plus souvent ?
Eh bien, je ne saurais dire qu'il y a une explication qui englobe tout le monde, parce que tout dépend réellement du type de famille, du type de groupe, de la dynamique familiale, du système dans lequel la famille évolue. Il y a des espaces dans lesquels tous les membres de la famille peuvent avoir des différences de statut qui n'ont rien à voir avec l'âge ou alors avec le genre. Il peut être question de statut social dans le cadre de la famille. Par exemple, le membre de la famille qui prend en charge les décisions importantes de la famille peut ne pas être le plus âgé, peut être un homme ou une femme, indifféremment, et peut être celui qui a le plus droit à la parole. Mmh. Donc c'est plus ou moins celui qui est le plus responsable, qui le plus souvent a le pouvoir de décider. Par contre, il y a souvent des situations où ce n'est pas les personnes qui sont responsables du cadre de vie, qui sont ceux qui finalement se retrouvent à ne pas pouvoir donner leur avis. Il n'y a pas de famille exactement identique à une autre, je pense.
Alors, on va entendre des premières paroles de femmes concernées. C'est le moment de notre palabre au féminin. Et cette semaine, cette palabre a été enregistrée à Antananarivo, à Madagascar, par notre reporter Raphaël Constant. Vous allez entendre deux sœurs, Sainana, 30 ans, et sa petite sœur, comme elle l'appelle, Andy, qui a 26 ans. C'est Sainana qui ouvre la discussion.
Avec mes sœurs, je communique différemment parce que je suis la seconde. Plutôt, je suis proche de ma petite sœur. D'abord parce qu'on vit ensemble et en plus, je me confie tout à elle. Elle garde mes petits secrets, contrairement à ma grande sœur, parce qu'elle a trop de jugements parfois. Elle est déjà mariée, elle a ses enfants. Nous, toutes les deux, on est tellement différentes. Et parfois aussi, j'ai un peu peur de me confier à ma grande sœur. Par exemple, est-ce que tu es d'accord si j'effectue un tel travail ? Elle apporte toujours un jugement négatif et j'aime pas trop ça. C'est pour ça que je préfère me confier à ma petite sœur.
Quand on veut parler une chose, on parle direct une chose. Parce que moi, avec ma grande sœur, on a quand même 11 ans d'écart. Il y a des trucs qui ne se disent pas entre sœurs qui a quand même 11 ans d'écart. Par exemple, j'ai le béguin pour quelqu'un parce qu'après, j'ai peur de son jugement. C'est souvent avec elle qui a été difficile parce que c'est quand elle qui dénonce aux parents. Donc, on va être grandé après. Oui, c'était comme ça. Et comme on ne se voit que rarement, donc je trouve que c'est normal qu'on ne se parle pas tout le temps des trucs qui arrivent dans ma tête comme ça, quoi.
Et avec vos parents, comment vous communiquez ?
Avec mes parents, vous savez, j'ai eu une enfance pas très épanouie parce que mes parents travaillaient tout le temps et je n'ai pas pu communiquer assez avec eux. Par exemple, je n'ai pas pu leur dire ce qui me tracasse pendant ma journée parce que je sais qu'ils étaient trop occupés dans leur travail et je préférais garder tout ça pour moi. Par contre, j'essaie de me rattraper en leur communiquer parfois ce qui m'arrive, mais je sens encore qu'il y a encore cette petite fille en moi qui était blessée dans le passé.
Quand parfois on leur dit quelque chose, ça retourne contre toi, puisqu'ils ne sont pas du même avec toi. D'ailleurs, même, j'ai un souvenir, une fille m'a harcelée à l'école. Quand j'ai annoncé à mon père qu'elle m'a humiliée, elle m'a harcelée devant tout le monde, ça a retourné contre moi, comme quoi c'est moi qui ne sais pas comment vivre avec les autres. C'est la raison pour laquelle j'avais peur de partager les trucs qui m'arrivent à mes parents. Je sais que ça fait encore un pincement au cœur quand on pense qu'il y a des fois, il y a des trucs qui m'est arrivé que je garde pour moi, alors que j'ai mes parents qui sont vivants, j'ai ma mère, j'ai mon père. On n'en partage pas les mêmes valeurs dans notre famille.
Sainana, est-ce qu'il y a des sujets tabous à la maison, des sujets dont on ne peut pas parler, sur lesquels on ne peut pas communiquer ?
On n'a pas eu vraiment de sujets tabous, mais plutôt un manque de communication.
Pas de tabous, mais je parle de non-dits. Par exemple, je suis directe, on ne nous a pas donné des éducations sexuelles. La sexualité, c'est un peu tabou, quoi. Et ça ne se dit pas entre père et fille, ça ne se dit pas entre frère et sœur. Et c'est comme ça.
Et qu'est-ce que vous aimeriez changer, justement, du point de vue de la communication ?
Si j'avais le pouvoir de tout changer, j'aimerais que mes parents soient plus à l'écoute. Parce que parfois, lorsqu'on communique à la maison, on n'a pas le droit de leur contredire, d'avoir un autre avis différent que leur. Et je préfère qu'ils soient plutôt attentifs et compréhensifs. Et comme ça, on a le cœur net l'un envers les autres.
Et comment vous voulez établir cette communication avec votre future famille? Comment vous envisagez ça?
Je pense qu'il est important d'être proche de son enfant. Par exemple, si je serais parent un jour, j'essaierai d'être beaucoup plus proche de ma fille surtout. Par exemple, je vais tout lui dire. Il y a des trucs que je vais acheter uniquement à toi et même pas à ta sœur. C'est pas que je te gâte par rapport à ton frère ou à ta sœur, mais je veux juste que tu ressentes que tu es importante pour moi et tout ce qui t'arrive, bon ou mauvais, enfin, m'impacte aussi.
Et donc vous pensez que pour que vos enfants se confient à vous, il faut leur faire des cadeaux, les gâter pour instaurer la confiance, la communication, c'est ça?
Oui, un peu de ça, mais il y a des fois aussi où je vais me confier à eux. Par exemple, j'avais un problème avec mes collègues, je vais tout leur dire et comme ça, ils vont comprendre que mes journées pourront être aussi difficiles comme les siennes. Et comme ça, on va se comprendre que maman aussi, elle a une journée difficile. Moi aussi, je vais raconter par exemple qu'une petite fille à l'école m'a peut-être pincé ou m'a peut-être piqué le goûter ou tout, ou par exemple comme ça.
Pour créer cette communication, je vais instaurer une sorte de rituel, comme tous les jours après l'école, ils me disent « Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? De quoi vous avez étudié? Racontez-moi ce qui vous a blessé ou ce qui vous a rendu heureux. Racontez-moi tout, tous les jours. Je vais instaurer ça pour qu'ils ne vivent pas ce que j'ai vécu dans mon passé. »
Isman, Soukaina Diop, que vous inspirent les paroles de ces deux sœurs, paroles recueillies à Madagascar par Raphaël Constant?
J'ai trouvé ce qu'elles ont dit très intéressant. J'ai bien observé comment elles ont vraiment discuté des générations, c'est-à-dire comment est-ce qu'elles étaient avant, comment elles communiquent maintenant dans leur génération et même les différences en fonction de l'âge avec leur sœur aînée, entre elles. Et aussi, comment elles pensent ne pas reproduire ce schéma-là dans le futur avec leurs enfants. C'est très intéressant comment elles corrigent justement ce qu'elles auraient voulu avoir, comment elles auraient voulu être soutenues. Parce que la question du soutien, je pense que c'est important, telle qu'elles l'ont montré. Elles ont dit que quand on dit des choses à la famille, parfois, ça se retourne contre nous. Donc finalement, on n'a plus envie d'en parler parce qu'on a peur des conséquences. Si on a peur des conséquences, on ne se sent pas en sécurité, ni écouté, ni soutenu. Et c'est ce qui rend la communication plus difficile. Donc des choses qui vont être plus difficiles pour elles, elles ne vont pas forcément en parler. Je pense que oui, elles ont à peu près touché à tous les aspects de ce que ça représente, la communication en famille.
Et justement, se confier à ses enfants, en quoi c'est important? Est-ce qu'il s'agit aussi de donner l'exemple?
Je pense que quand on dit se confier, je veux dire, l'exemple qu'elle a proposé est un exemple de contenu dont on peut se confier. Elle a abordé des sujets où les enfants peuvent comprendre qu'est-ce qui se passe dans le cadre de l'école et associer ça avec celui du travail et savoir que dans le travail, on peut rencontrer des personnes autour de nous avec lesquelles on n'a pas forcément tout de suite des mots gentils. Et il peut arriver même qu'on soit frustré par les conversations qu'on a ou les relations qu'on a avec les personnes à l'extérieur, comme à l'école. Et on peut avoir le droit d'en parler, en fait, avec ses proches. Et je pense que comme ça, elle pointe bien du doigt les limites de ce qu'on peut confier à ses enfants.
Et justement, il y a, et on l'entend dans leur voix, des sujets qui peuvent être tabous dans la famille, notamment la sexualité.
Effectivement, elles ont souligné cet aspect-là en disant que justement parce que c'est tabou, des choses qui vont leur arriver dans ce cadre-là, elles n'oseront pas forcément en parler à leur grande sœur ou à leurs parents. Je pense que la question de la communication au sujet de tout ce qui est sensible, c'est-à-dire au niveau de la violence, au niveau de la sexualité, elle est importante, mais on apprend à aborder ces sujets-là, en particulier avec les mots qu'il faut en fonction de l'âge de l'audience. Et ça, c'est quelque chose qui se travaille, avec lequel on se pose la question, on se prépare à aborder cette conversation-là.
Donc il faut en parler, mais il y a des manières de le faire.
Exactement, en fonction de l'âge de l'enfant, on ne s'adresse pas à lui avec ces sujets-là de la même manière.
Alors dans cette émission, nous vous donnons la parole à vous, les auditrices. Cette émission est pour vous et nous partons tout de suite pour Matadi, en République démocratique du Congo.
RFI à Matadi, 98 FM.
Bonjour Vanessa.
Bonjour.
Bienvenue dans notre émission Vanessa. Vous, vous avez 33 ans et vous êtes la cinquième d'une fratrie de 6. On vous écoute Vanessa.
Alors moi j'ai un problème réel de communication en famille et ça date pas d'aujourd'hui. J'ai du mal, nous avons tous en fait du mal à communiquer les uns les autres et je suis celle qui a une étiquette de mal polie parce que je suis celle qui engage souvent les conversations et même lorsque nous avions notre père, c'est le petit frère, il parle pas au grand frère avant que on l'ait accordé la parole. Et j'ai souvenir de l'avoir fait récemment et j'ai été critiquée mais presque diabolisée par mon propre père et j'ai été durement réprimandée sur ça.
Parce que vous et aviez parlé, entre guillemets, à la place de votre frère.
Oui, moi je me dis, ben, on l'a donné la parole, ça fait 2 minutes, personne ne parle. En fait, c'était pas lui, hein, que la question n'était pas posée à lui directement. Il avait dit que la personne qui a droit de parler, la parole vous est donnée, vous pouvez parler. Culturellement, on sait qu'il fallait que ce soit un aîné qui puisse parler. Du coup, je dis, ben, je peux plus prendre la parole en famille, quoi. C'est vraiment chaotique, oui.
Et vous avez des difficultés hein, de relation avec votre frère aîné, justement?
Oui, oui, effectivement. Je suis sur le point de l'envoyer une lettre parce que je sais que même si je l'appelle au téléphone, il ne me laissera pas finir. Au moins, je me dis que la lettre, il peut la lire.
Alors, je crois qu'il vous en veut, notamment à vous, parce que vous étiez arrivée en retard à une réunion de famille qui était de son initiative à lui.
Oui, oui, oui. Oui, je suis arrivée en retard. Conscience de ça, j'ai pris ma place pour vous présenter des excuses. Là, il ne veut rien savoir. Il s'est senti un peu diminué, maltraité, ou je sais pas, c'est pas le bon mot.
Et qu'est-ce que vous lui avez écrit dans cette lettre, alors qu'il n'a pas encore été envoyé, si j'ai bien compris? Mais qu'est-ce que vous avez mis par écrit, vous?
J'ai essayé de relater, en fait, l'essence de notre famille, hein, les problèmes de communication, carrément, ce n'est que ça.
Donc vous avez fait un premier pas, en tout cas, pour essayer de renouer un dialogue avec votre frère. Ismane Soukaina Diop, qu'est-ce que vous pourriez conseiller à Vanessa?
La démarche d'essayer de comprendre est très juste. Maintenant, la question de lui écrire une lettre, peut-être que c'est le meilleur média pour converser avec lui. Je suppose que vous le connaissez bien et donc vous savez peut-être que c'est la manière de faire. Enfin, il y a une raison pour laquelle vous avez choisi ce média-là. Quel que soit l'issue de cela, je pense qu'il y a aussi une part d'acceptation de sa position dans le sens où si jamais à votre niveau, vous arrivez au point où vous ne vous en voulez plus pour cette situation, mais vous acceptez que étant en retard ou ayant peut-être dit ou utilisé un vocabulaire qui ne lui convenait pas, je ne sais pas exactement comment ça s'est passé, la prise de parole, mais dans ce contexte-là, il est important aussi d'ouvrir la porte pour soi-même à l'acceptation qu'il aura peut-être besoin d'un temps. Et pendant ce temps-là, il faudra accepter qu'il veut être à distance.
Et Vanessa, vous avez envisagé de proposer à votre famille une thérapie familiale?
J'envisage, mais franchement, je n'ai pas encore sorti la carte. J'envisage vraiment leur en parler parce que la situation devient très chaotique et j'espère vraiment qu'ils vont adhérer à cela.
On imagine que ça pourrait être une solution. Merci Vanessa pour votre témoignage. Alors aujourd'hui, comme chaque vendredi, ce sont les auditrices qui sont en charge de la programmation musicale. Et vous, Vanessa, vous avez choisi une chanson autour de la figure de la mère. C'est quelle chanson?
Avant qu'elle parte de Section d'Assaut.
Allez, avant qu'elle parte, on va l'écouter. C'est signé donc Section d'Assaut et vous êtes bien sur la radio du monde.
Insensé, insensé.
Pardonne-moi pour tes insomnies à répétition. Pardonne-moi pour les files d'attente, les clashs à l'inspection. Pardonne-moi pour les gardes à vue, les perquisitions. Pardonne-moi d'être parti si tôt, d'être devenu musicien. Toutes les fois où j'ai oublié de répondre à tes messages. Toutes les fois où je devais venir te voir entre 2-3 dates. Toutes les fois où j'ai dû te mentir pour éviter que tu me frappes. Toutes ces fois, je n'ai jamais douté de ta bonne foi.
Ta mère est une fleur rare que t'abreuves par ton amour. L'en privé, c'est la tuer, donc n'abrège pas son compte à rebours. Dis-lui que tu l'aimes, que tu regrettes ta manière d'être conflictuelle. Elle a du mal à s'évader car tes grands frères ont pris du ferme. Est-ce mes rides qui m'empêchent de lui sourire? Je veux pas rester en vie jusqu'à la voir mourir. Tes larmes piquent mes plaies, j'aimerais te contenter. À jamais je maudis ce jour où on t'enterre.
Et même quand tout le monde est contre toi, elle reste ta meilleure amie. T'aimerais lui dire ce qu'elle représente pour toi avant qu'elle ne perde la vie. Mais tu n'oses pas, tu n'oses pas, tu n'oses pas lui dire. Mais tu n'oses pas, tu n'oses pas, tu n'oses pas lui dire.
Qu'elle aimerait juste entendre un maman je t'aime à la place des cris du daron qui menace de te jeter. Je suis sûr qu'elle craque au bout d'une semaine passée sans toi et que ton absence lui ferait plus mal qu'une chute du haut de son toit. Je suis sûr qu'elle aimerait que tu la prennes dans tes bras exactement comme elle le faisait durant tes 12 premiers mois. Je suis sûr que l'amour t'a rendu myope. Au lieu de le porter à ta mère, tu le portes à une idiote.
Des zérophones avec ta meuf afin de mieux vous rapprocher. Et quand ta mère t'appelle, tu veux vite raccrocher.
Devant tes potes, tu lui tiens tête, tu veux lui donner des leçons. Mais t'oublies que cette tête, elle l'a tenue quand elle te donnait le sein.
Crois-moi sur parole, on peut remplacer des poumons, mais sûrement pas une daronne.
T'as habité en elle, t'as habité sous son toit. C'est la seule personne qui prie pour quitter ce monde avant toi.
Au commissariat pour elle, t'étais jamais coupable. Mais pour moi, tu l'es car t'es bronzée alors qu'elle est toute pâle.
À part elle, personne supporte ton égoïsme permanent. T'es pas le nombril du monde, mais t'es celui de ta maman.
Et même quand tout le monde est contre toi, elle reste ta meilleure amie. T'aimerais lui dire ce qu'elle représente pour toi avant qu'elle ne perde la vie.
Bienvenue si vous nous rejoignez pour cette émission Questions de femmes. Comme chaque vendredi, Priorité Santé vous propose une émission consacrée à la santé au féminin. Et aujourd'hui, nous parlons de la communication en famille avec notre invitée tout au long de cette émission, Ismane Soukaina Diop, docteur en psychologie clinique à l'université de Cheikh Diop à Dakar, au Sénégal, avec bien sûr comme toujours les témoignages et les questions de nos auditrices. Et nous accueillons Irina à Antananarive. Bonjour Irina.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, Irina. Alors vous, vous avez 25 ans et vous dites « Dans ma famille, la communication, ce n'est pas notre fort
». Oui, parce qu'on ne parle pas beaucoup dans la famille. On est à peu près à 7 ou 8 dans la famille, mais je parle rarement aux autres, juste à ma mère et à ma grande sœur et c'est tout.
Donc quand vous dites 7, c'est les parents et, voilà, et vous, 5 frères et sœurs.
Oui.
Et vous êtes la dernière, hein.
Oui.
Alors, comment se passent vos relations avec vos parents?
On ne parle pas vraiment, juste bonjour, ça va les études, et c'est tout, c'est presque tout. Surtout avec mon père. Avec ma mère, je parle beaucoup plus qu'à mon père.
Donc, à votre père, vous ne racontez pas grand-chose de votre vie?
Non, pas grand-chose.
Et il y a des sujets un peu tabous, vous diriez, dans la famille?
Oui. Surtout avec mon père, parce que je pense que c'est tabou de parler des relations amoureuses que j'entretiens avec mon copain et de parler de ma vie sexuelle, de ma santé sexuelle. Je pense que c'est tabou. J'ose parler quelques trucs avec ma mère, mais pas avec mon père.
Et ils connaissent votre petite amie? Vos parents, ils l'ont déjà rencontrée?
Ma mère le connaît, mais mon père, pas du tout.
Et c'est un choix de votre part?
Je pense que oui, parce que je me sens beaucoup plus à l'aise avec ma mère et... C'est ça.
Donc vous parlez plus avec votre mère, pas beaucoup avec votre père. Qu'est-ce qui vous pèse aujourd'hui quand on parle de communication au sein de la famille? Qu'est-ce que vous aimeriez changer, vous?
Je pense que j'ai beaucoup de choses à dire à ma famille. J'ai plein de sujets que j'aimerais aborder à ma famille, mais j'ai beaucoup de difficultés et je pense que nous ne pensons pas de la même façon. Eux, ils ont leurs avis personnels et moi, par exemple, sur la vie amoureuse, moi, je pense que les femmes, elles peuvent faire tout. On ne peut pas lui forcer à faire quelque chose qu'elle ne veut pas faire. Et au niveau de la vie sexuelle, il est important de demander à la femme qu'est-ce qu'elle veut. Et on peut faire l'amour, même juste pour le plaisir. Mais ma famille, ils ne pensent pas comme ça. Et c'est un sujet vraiment très sensible dans la famille et donc j'évite le débat.
Ismaël Soukaina Diop, on l'entend hein, dans la voix de Dirina, il y a des sujets un peu sensibles qu'elle aimerait amener dans la conversation familiale, mais c'est compliqué.
Oui, elle a même pu aborder la différence entre le parent avec lequel elle se sent le plus à l'aise, sa mère, à qui elle a même pu présenter son petit ami, et à son père avec qui il y a une distance et avec lequel elle ne peut pas avoir ce type de conversation-là, ce qui s'entend bien tel qu'elle le décrit.
Merci en tout cas, Irina, pour votre témoignage. Comment bien ou mieux communiquer en famille? Vous pouvez aussi intervenir par message audio sur WhatsApp. Et justement, on a reçu un message.
Je suis Sophia, je suis à Maroua, dans la région du nord du Cameroun. Alors, je suis maman de 3 enfants. J'ai grandi dans une famille où la communication était compliquée avec les parents. Il n'y avait pas de dialogue, c'était des instructions, c'était des injonctions, c'était des ordres. Donc, nous n'avons pas appris à dialoguer avec, surtout avec ma mère, mon père encore. Bon, il était absent presque tout le temps. Ça fait qu'à l'âge adulte, il a essayé de se rapprocher de nous, mais bon, ça ne collait plus parce que nous, on avait toujours peur d'elle. On avait toujours peur qu'elle nous crie dessus ou bien qu'elle nous fasse des remontrances. Bon, moi, actuellement, en tant que parent, j'ai peur de répéter le même schéma que ma mère. Du coup, je suis plus dans le dialogue avec mes enfants. Mais mon mari trouve que je manque un peu d'autorité par rapport à ça. Donc, je ne sais pas comment trouver le juste équilibre entre l'autorité parentale et la communication. Parce que je n'ai pas envie d'être un bourreau pour mes enfants. Je n'ai pas envie qu'ils aient peur de moi comme moi j'avais peur de ma maman. Voilà, merci pour tous les conseils que vous voudrez bien me donner pour améliorer la communication avec mes enfants. Merci, bonne journée.
Ismaël Soukaina Diop, il est important de mettre au clair notre héritage familial en termes de communication, voilà, de se poser les questions. Comment nous, est-ce qu'on dialoguait avec nos parents à un plus jeune âge? Ça peut être utile, ça, avant de soi-même construire sa propre famille?
Je ne pense pas que ce soit des choses auxquelles on pense avant. Je pense que on se dit jamais en fait que l'héritage a autant d'impact sur nous tant qu'on n'a pas commencé le processus de devenir un parent et tout ce qui concerne la parentalité. Je pense que c'est en face de situations claires qu'on se dit ah, j'ai envie de réagir brutalement pour prouver à l'enfant que je suis capable de lui faire peur si jamais il fait une bêtise ou qu'il doit avouer s'il a fait une faute. Et c'est après coup qu'on est dans la réflexion de est-ce que vraiment ça ne nous a pas fait apparaître comme le parent qu'on avait qui nous faisait peur? C'est toujours des plaies qui ne sont pas cicatrisées, qui nous restent du passé. Et c'est au moment où on voit notre enfant réagir en pleurant ou en ayant peur qu'on se rend compte de l'écho que ça fait d'une génération sur l'autre. Donc ce que je pense, c'est plutôt que d'être dans un processus de culpabilisation a posteriori ou de difficulté à digérer le passé, mettre en place des choses pratiques, c'est-à-dire discuter avec l'enfant lorsqu'il arrive une situation, même quand on a l'impression qu'on a réagi avec excès, parler à l'enfant par la suite en lui disant voilà, on a discuté tout à l'heure et moi j'ai réagi comme ça, je sais que ça t'a fait peur, mais je ne voulais pas te faire peur, c'est parce que j'ai eu très peur quand tu as fait telle activité ou quand si je te demande de faire tel et tel exercice par exemple, c'est parce que je voudrais que tu puisses réaliser telle et telle chose. Et on invite l'enfant à dire comment il s'est senti quand on lui a parlé et on parle des émotions que l'enfant a ressenties ou que soi-même on a ressenti. Et je pense que l'exercice tel qu'il est fait, ça permet à soi-même de montrer non seulement sa vulnérabilité mais aussi son humanité à l'enfant. On est là pour l'écouter, on est tous les deux en train de gérer ses émotions et on doit apprendre ensemble à communiquer au sujet de nos réactions.
Et ce n'est pas grave hein, de montrer sa vulnérabilité justement devant ses enfants?
Oui, il y a une confusion entre le rôle de parent et le rôle de chef. Être un parent, c'est être un être humain vulnérable qui prend soin de ses proches comme ses proches prennent soin de lui. Être un chef, c'est quelqu'un qui doit gérer un groupe de personnes et qui doit afficher une attitude impassible et une attitude de maîtrise constante. Et parfois, il y a une forme de juxtaposition entre les deux titres qui font qu'on a peur de perdre la face devant sa famille, donc on ne montre pas certaines faiblesses.
Et bien sûr, quand la communication était défaillante avec nos parents, ça ne veut pas forcément dire qu'elle va l'être hein, dans notre nouvelle famille, celle que l'on se crée.
On a toujours la possibilité de changer la manière dont on communique, quel que soit le moment.
Alors, une autre auditrice nous attend au standard.
RFI à Lomé, 91.5 FM.
Bonjour Joyce.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous, Joyce. Vous êtes à Lomé, au Togo. Vous avez 38 ans et vous avez 4 filles.
Oui, c'est ça.
Alors, vous êtes séparée, si je ne me trompe pas, du papa, hein, du père, il y a 4-5 ans. On vous écoute, Joyce.
Oui, bon, j'ai 4 filles. Elles ont entre 17 et 3 ans. Mais la communication est surtout difficile avec celles qui sont les plus âgées. Donc avec la première, c'est un peu compliqué, mais c'est surtout la deuxième. Elle est complètement renfermée, elle a du mal à s'ouvrir. Et la troisième, elle dit tout sans filtre, sans rien, jusqu'au point où même de dévoiler certains secrets.
Et comment elles s'entendent toutes les trois, toutes les quatre même?
Avec la plus petite, c'est un peu plus aisé.
La plus petite a 3 ans, donc elle est vraiment petite.
Voilà, elle est vraiment petite. Donc avec les plus âgées, celles de 17, 14 et 11 ans, les trois ne s'entendent pas vraiment.
Elles se disputent ?
Oui, elles se disputent. Parfois, elles vont jusqu'à se bagarrer aussi.
Et alors, je crois que vous avez aussi peut-être une question pour notre invitée autour de votre relation à vous avec l'une de vos filles, celle que vous décrivez comme renfermée.
Oui, celle qui est renfermée, vraiment, quand il s'agit de parler, de discuter ou quand tu lui poses une question, tout de suite, elle met une barrière. Donc, j'aimerais avoir quelques conseils qui peuvent me permettre de pouvoir mieux communiquer avec elle. Parce que vraiment, c'est compliqué.
Ismaël Soukaina Diop, qu'est-ce que vous pouvez conseiller à Joyce ?
Oui, j'ai bien entendu tout ce que vous avez dit. Et effectivement, je comprends votre questionnement. Ce que je peux vous conseiller, c'est que parfois, pour que la communication existe, il faut créer l'espace de la communication et attendre qu'elle se mette en place. C'est-à-dire, passer du temps avec votre fille sans lui parler de quoi que ce soit. Donc lui dire « viens m'accompagner à tel endroit » ou « allons ensemble ici » ou « asseyons-nous, on écoute telle émission à la radio » ou « on regarde telle chose, tel document ou tel film ou quelque chose » mais passer du temps dans le même espace qu'elle pendant plusieurs fois et à un moment, elle va se mettre à parler ou alors vous allez montrer quelque chose, choisissez peut-être le média dont vous pensez qu'il aborde un sujet qui vous intéresse comme une émission, comme un document ensemble ou même comme un film à l'extérieur. Et après, vous lui dites « qu'est-ce que tu as pensé de ce film ? Quel est ton avis là-dessus ? » Et là, peut-être que ça peut permettre de faire le lien avec quelque chose qu'elle vit. Peut-être qu'en parlant d'un sujet qu'elle a vu dans cet événement avec vous, elle peut dire « oui, ça me rappelle ça qui s'est passé dans tel endroit », et là, petit à petit, sans jugement, vous pouvez écouter ce qu'elle dit en disant « ah oui, bien sûr, d'accord, je comprends », et l'inviter à ouvrir petit à petit la conversation dans des fenêtres comme ça où elle construit cet espace de sécurité avec vous, plutôt que d'attendre qu'elle vienne naturellement vous parler d'un sujet.
Joyce, ça répond à votre interrogation?
Oui, merci beaucoup, ça répond vraiment, ça m'aide.
Et je crois que vous aviez aussi une autre question au sujet de la communication au sein de la fratrie.
Oui, vraiment, c'est compliqué entre les trois. Elles ne s'entendent pas vraiment. Donc, est-ce que je peux avoir certaines astuces pour pouvoir les aider à mieux communiquer entre elles?
Ismaël Soukaina Diop.
Souvent, ce prisme-là de « on est plusieurs enfants d'âge proche », vous avez dit 17 ans, 14 ans et 11 ans, c'est 3 ans entre chacune, donc elles sont chacune dans un stade différent. Et donc, tout le monde a des préoccupations complètement différentes et l'impression que l'autre ne comprend pas du tout les préoccupations et la colère de l'autre qui arrivait après et on n'est plus le dernier enfant. Et donc, il y a cette forme de concurrence également. Ce qui casse la concurrence, c'est un objectif commun. Par exemple, vous prenez une feuille, vous écrivez dessus quels sont les jours où on ne se dispute pas et vous mettez un point pour chaque jour. Et à la fin de la semaine, vous leur dites, voilà, à la fin de la semaine, on va regarder le film ensemble ou bien on va aller sortir ensemble ou bien on va faire quelque chose ensemble. Mais ça doit être quelque chose qu'on travaille ensemble. La bonne entente peut être un objectif commun.
Vous conseillez, Ismaël Soukaina Diop, de partager des moments, en fait, sans forcément se parler, hein, c'est ça ? Toujours de vivre des nouvelles choses ensemble.
Si on sort marcher ensemble, on va parler ensemble.
Ça ouvre une discussion. Merci beaucoup Joyce pour votre témoignage et puis pour vos questions. On espère que cette discussion a pu vous aider. On va accueillir notre dernière auditrice du jour, Fatou. Bonjour Fatou.
Bonjour.
Alors vous, vous êtes à Dakar et vous êtes maman également de 3 filles. Alors quels âges ont-elles ?
Alors elles ont 11 ans, 7 ans et 1 an.
Et vous aussi, vous êtes séparée du papa ?
Oui, exactement. Les deux premières ont le même papa et je suis séparée de leur papa.
Alors comment s'est passée la séparation ? Comment elles l'ont vécu ? Et puis je crois que vous avez rencontré un fiancé après.
Oui, exactement. La séparation avec le père, ça s'est plus ou moins bien passé, parce que dans tous les cas, on n'était pas mariés, donc on vivait pas ensemble. Bon, certes, on se voyait, on faisait des choses ensemble tous les quatre, mais il n'y avait pas de vie de famille au quotidien. Donc après, quand on s'est séparés, j'ai rencontré mon fiancé actuel. Et c'est là que ça a commencé à être un peu plus compliqué avec le papa des deux premières. Mais sinon, ça allait. Elles s'entendent très bien avec lui. Mmh. Et très vite, un an et demi après, oui, je suis tombée enceinte donc de leur dernière petite sœur.
Donc quand vous dites qu'elles s'entendent bien avec lui, elles s'entendent bien avec leur papa ?
Leur beau-père.
Ah, leur beau-père. D'accord.
Oui, avec leur beau-père. C'est tout de suite passé. Bon, là, avec la plus grande, elle voulait vite comprendre de quoi il s'agissait, parce qu'on lui cachait un peu au début. Et donc, elle a vite voulu savoir si c'était... sérieux ou pas, parce qu'elle voulait savoir si ça allait être comme avec son papa, on allait être ensemble, mais sans vraiment habiter ensemble, sans vraiment avoir de vie de famille stable. Donc j'ai dit non, bon là apparemment on va habiter ensemble, il y a un mariage qui est prévu, donc c'est pas pareil.
Et vous êtes en phase avec votre nouveau conjoint par rapport à l'éducation de vos filles? Comment elles vivent l'autorité en fait de ce beau-père?
Oui. C'est pas compliqué, mais un peu compliqué en même temps, parce que c'est vrai qu'il n'y avait pas vraiment de figure masculine à la maison. Moi, je vivais avec ma mère et avec mes filles, donc on n'était que des femmes. Et bon, il y a un homme comme ça qui arrive, qui essaye de trouver sa place. Et surtout que lui et moi avons des éducations complètement différentes. Moi, j'étais arrivée, on va dire, un peu plus à la cool, et lui, c'était un peu plus strict, un peu plus dur. Pour moi, des fois, il hausse la voix quand il ne le faut pas. Ou alors, pour lui, moi, je suis des fois trop laxiste avec les filles.
Donc, il y a des désaccords entre vous et peut-être des tensions entre lui et vos filles.
Alors, les filles, elles essaient, je pense que, bon, jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu de conflit direct. C'est-à-dire que quand elles voient qu'ils commencent à hausser la voix, elles ne parlent pas. Il n'y a pas encore de réponse. La plus grande, je sais que là, elle commence à avoir 11 ans. Elle rentre un peu dans sa période de rebelle. Et je sais que bientôt... ça ne pourra plus passer. Des fois, c'est justifié. Hein. Ce n'est pas comme s'il criait sur elle pour rien ou il haussait la voix. Ce n'est pas vraiment crier, mais c'est-à-dire que des fois, on répète au moins 15 fois la même chose. Elles ne répondent pas ou elles ne font pas ce qu'il faut faire. Et à un moment, il y a un coup de voix et qui fait que là, tout le monde s'arrête et puis on devient toute petite.
Ça vous inquiète en tout cas un petit peu, cette entrée dans l'adolescence de votre fille aînée?
Voilà, il y a cette entrée. Et puis bon, la deuxième, elle est beaucoup plus réservée. C'est qu'elle encaisse beaucoup, elle parle pas. Mais c'est ce que j'essaye de faire. À chaque fois, moi, ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois qu'il y a ce genre de situation, j'ai dit, bon là, franchement, c'était pas nécessaire. C'était dur pour rien. C'est des enfants. Bon, certes, lui, il est prêt pour des grandes. Je dis, mais elles sont pas grandes. Enfin, lui, il dit que je les prends encore trop pour des enfants, alors qu'elle, elle commence à grandir. Il faudrait essayer de les responsabiliser. Et surtout, enfin, je veux pas qu'il y ait de différence, qu'elles sentent une différence entre leur sœur, qui est sa fille, et elle. Donc, pour l'instant, comme elle est bébé, bon, on peut pas, on crie pas sur elle, on la réprimande pas, enfin, il faut faire attention. Donc, elle, on essaie de les responsabiliser, des fois, peut-être un peu trop, à dire, mais faites attention à votre petite sœur, c'est le bébé, faut pas faire ci, faut pas faire ça. Mais faut pas, je lui dis à chaque fois, je lui dis, faut pas qu'elle se sente moins aimée.
Ismane Soukaina Diop, comment peut-être faciliter la communication entre donc ce beau-père, donc en l'occurrence votre nouveau conjoint Fatou, et les filles de Fatou?
Je pense que Fatou, vous avez abordé la question sensible de comment est-ce qu'on peut faire une famille recomposée en intégrant une différence en fait des rôles le papa, la maman. Et la manière que vous avez d'interagir avec vos filles n'est pas du tout la même que votre mari. Et en fait, je pense qu'il y a, il y a deux problèmes. Le premier, c'est que vous, votre manière d'interagir avec vos filles n'a pas besoin de changer. Elle peut rester la même. Et sa manière d'interagir avec elle peut être sa manière. Vous n'êtes pas obligé de trouver une moyenne. Par contre, dans les conversations après coup, où vous dites ça ne doit pas, c'est pas nécessaire d'en arriver là, ou alors on peut trouver notre manière de communiquer, je pense qu'il y a dans la conversation hors des enfants et hors des situations de dispute, je pense que c'est important que vous ayez aussi votre point de vue dans les limites de la manière dont on aborde l'éducation et comment est-ce qu'on a un rôle de parent, c'est-à-dire on montre les choses, on fait avec les enfants plutôt que d'être dans une posture de critique. Et ça tel que vous le dites, votre fille adolescente, vous la sentez déjà prête à ne plus encaisser en fait les hausses de voix et les réactions qu'elle peut juger comme étant critiques. Et je pense qu'il y a un travail à faire à ce niveau-là, de discuter avec elle, qu'elle puisse dire aussi pourquoi est-ce qu'elle réagit comme ça et qu'elle puisse exprimer aussi son point de vue. Parce qu'au-delà du fait qu'elle n'écoute pas ou que vous avez besoin de répéter plusieurs fois, peut-être qu'il y a là, dans cet espace-là, quelque chose qu'il faut discuter. Il doit y avoir une explication pour laquelle elle n'écoute pas du premier coup ou elle ne veut pas faire comme vous dites. Peut-être que c'est ce problème-là qu'il faut corriger.
Fatou, cela vous éclaire un petit peu ?
Je pense que c'est des fois, en fait, des fois, c'est juste qu'elles sont occupées. On leur répète un truc tout bête, allez ranger vos chaussures. Elles sont en train de jouer ou elles sont en train de regarder la télé. Ou... Et il faut répéter. Après, bon, je lui dis que la pédagogie, c'est répétitif, donc c'est normal de répéter à chaque fois. Il me dit oui, mais au bout d'un moment, il faut aussi qu'elle comprenne qu'on n'est pas là pour répéter 10 000 fois la même chose, alors que ça pourrait être fait de la manière cool, sans problème. Et c'est surtout, enfin après, des fois il dit un truc bête, mais des fois il dit non juste pour dire non. Je dis bon, moi personnellement, j'ai jamais eu on m'a pas gâté, j'ai eu tout ce que je voulais, Dieu merci, mais c'est pas pour autant que j'étais une enfant pourri gâtée qui ne connaît pas la valeur des choses. Et il me disait que lui, en fait, on l'est privé de certaines choses, lui a donné le sens de la valeur des choses. Donc on est complètement, enfin là on est un peu opposés. Je dis bon, moi c'est pas parce que elles auront ce qu'elles demandent qu'elles vont pas savoir que il faut le mériter, que ça coûte cher, que c'est pas tous les jours comme ça, mais que quand on travaille bien ou bien quand on est correct, on peut avoir ce qu'on veut. En tout cas en étant enfant. Je dis que pour moi l'enfance, ça doit se vivre. L'adolescence et la vie adulte, c'est beaucoup plus dur. C'est qu'à ce moment-là qu'elle peut profiter de ce genre de largesse, on va dire.
Merci beaucoup, Fatou, pour votre témoignage qui nous a permis d'aborder cette question aussi des familles recomposées. Isman Soukaina Diop, la communication ne passe pas forcément par les mots. On en a beaucoup parlé dans l'émission. Il y a aussi tout ce qui est non-verbal, bien sûr, le ton de la voix, le regard, et puis, bien évidemment, la gestuelle et les câlins. Ça aussi, c'est important au sein de la famille.
Oui, tout à fait. La communication, elle est là pour démontrer le soutien et l'inconditionnalité du lien. Je pense que c'est ce qui est important. Quelle que soit la forme de la communication, lorsqu'on la met en place dans la famille, c'est pour montrer qu'on est là de toute manière et qu'on est lié et qu'on est là l'un pour l'autre.
Et il faut aussi des mots positifs, dire je t'aime tout simplement ou faire des compliments.
Je pense qu'il y a plusieurs façons de montrer son affection, son amour, et chacun a sa manière de le faire. Mais le plus important, c'est que l'autre comprenne cette manière. C'est-à-dire que si on a une manière d'exprimer son amour qui n'est pas du tout comprise, quelque part, ça ne fait pas une meilleure communication de le montrer tel que nous, on veut le montrer. Il faut trouver des moyens de montrer notre amour aux autres de manière aussi à ce qu'ils l'entendent et à ce qu'ils se sentent aimés.
Et une dernière question, comment faire si on est loin de sa famille géographiquement? Comment est-ce qu'on peut communiquer malgré la distance et bien communiquer malgré la distance?
Eh bien, si la question c'est avec sa famille, Je pense que les applications ne manquent plus en termes de possibilités. Aujourd'hui, on peut s'appeler en visio maintenant, tout le temps, c'est possible. Maintenant, on ne peut pas forcément se déplacer pour voir sa famille, mais on peut créer des espaces où on rencontre d'autres personnes qui peuvent devenir des proches, qui prennent aussi une place dans notre vie avec lesquelles on peut communiquer.
Tout ça pour parvenir toujours à un climat plus serein au sein de sa famille. Merci, merci beaucoup à vous, Ismaël Soukaina Diop, d'avoir participé à notre émission, d'avoir pris le temps d'écouter nos auditrices et puis de nous avoir donné à toutes et à tous des conseils pour une communication plus tranquille au sein de sa famille. Une communication qui ne sera jamais parfaite, quoi qu'il en soit, mais on peut toujours mieux faire. Flows, c'est tout de suite sur RFI et c'est signé les Amazones d'Afrique. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique cette émission. Damien Roucou, Louise Kaledek, Talim Pouo, Valentine Lemaire, Tom Malky, Didier Bleu à la réalisation, aidé aujourd'hui d'Adrien Toureau. Et dans notre studio à Dakar, Malagme Sonko, lundi dans Priorité Santé, reportage sur la lèpre à Madagascar. L'île Rouge fait partie des 10 pays les plus touchés au monde par cette maladie infectieuse chronique. Quelle prise en charge et quel frein pour un dépistage efficace? Quel défi reste à relever aujourd'hui pour éradiquer complètement cette maladie? C'est un reportage signé Raphaël Constant, à écouter donc lundi. Et moi je vous dis à bientôt et surtout, portez-vous bien.
C'était Priorité Santé avec Sounou Assurance. Notre métier, l'assurance, et Sounou Banque avec vous à chaque étape.